Salut, c'est Gilles pour Pendule et Pyjama, un podcast qui parle d'hypnose et de comment ça marche. Dans ce premier épisode, je ne vais pas entrer directement dans le sujet, mais plutôt me présenter rapidement, présenter le podcast et me débarrasser de la question principale, est-ce que l'hypnose, ça marche vraiment? Alors déjà, pour me présenter, je suis praticien en hypnose depuis maintenant plusieurs années, avec un cabinet sur Nantes. Je suis formé à plusieurs pratiques comme l'hypnose de rue, l'hypnothérapie, et à différentes méthodes d'hypnothérapie, comme l'hypnose ericksonienne ou la méthode Unkar, qui est aujourd'hui la seule que je pratique au cabinet. Je suis aussi membre de l'association Nantes-Hypnose, qui regroupe plusieurs membres de différentes pratiques, et qui a pour objectif de faire découvrir l'hypnose au plus grand nombre par des sorties d'hypnose de rue, des soirées événementielles et différents stages. Au fil des épisodes, et particulièrement du prochain, je parlerai aussi de psychologie, parce que ça me semble difficile de comprendre l'hypnose sans faire de lien avec. Et pour éviter de laisser planer le doute, je m'intéresse à la psychologie depuis quelques années, mais je ne suis pas psychologue. Donc écoutez avec une bonne dose d'esprit critique. Ce podcast il s'adresse à toute personne intéressée par le fonctionnement de l'hypnose et qui a envie de creuser comment ça marche de l'intérieur. Je vais aborder pas mal de thèmes différents, parfois un peu complexes, mais en tentant de toujours trouver le bon niveau de vulgarisation et d'information pour ne pas noyer sous les détails, quel que soit le niveau de connaissance. Mon objectif, c'est que tout le monde puisse y trouver son compte avec des niveaux de lecture différents. Aussi bien la personne qui n'a jamais été exposée à l'hypnose que l'hypnotiseur qui pratique régulièrement et qui pourra faire des liens entre ce que je raconte et ce qu'il observe dans sa pratique. Mais alors de quoi ça va parler? Je ne vais pas vous apprendre à hypnotiser, il y a plein de ressources pour ça et j'apporterai rien de nouveau sur le plan technique vu que les outils que j'utilise sont les mêmes que ceux qu'on trouve un peu partout. Je vais plutôt partager ma compréhension de l'hypnose après quelques années passées à l'avoir étudiée et pratiquée. Je ne vais pas tellement parler de la manière dont on fait de l'hypnose, mais plutôt de comment ça fonctionne à un niveau un peu plus mécanique, sous le capot. Ce que ça exploite de notre fonctionnement et la manière dont ça affecte notre corps et notre esprit. Habituellement, lorsqu'on présente l'hypnose, c'est en partant de tout ce qu'elle permet de faire. Et on explique son fonctionnement par la présence d'un inconscient plein de capacités insoupçonnées qui fait le nécessaire pour que ça marche. Le souci, c'est que quand on délègue son fonctionnement à un inconscient, aux capacités un peu floues, ça laisse beaucoup de marge aux croyances et aux convictions personnelles sur ce que ça permet. Plus je crois que l'inconscient est puissant, plus j'ai la conviction que l'hypnose elle peut réaliser des miracles. Selon la personne à qui on demande, on va avoir une hypnose qui est capable de faire presque tout et n'importe quoi, et un inconscient qui sert systématiquement de caution pour justifier toutes les promesses. Mon point, c'est pas de dire qu'il n'y a pas d'inconscient, c'est pas de dire qu'il joue aucun rôle, mais plutôt de dire qu'on peut le penser autrement, sans super pouvoir, et sans que ça retire quoi que ce soit à l'hypnose et aux phénomènes les plus impressionnants. On n'a pas besoin d'un inconscient omnipotent pour expliquer la disparition d'une phobie en une séance, et on n'a pas besoin d'un inconscient omnipotent pour expliquer qu'un volontaire hallucine des chats dans sa paume alors qu'ils n'existent pas. Il y a d'autres manières de penser la chose. Ce que je vous propose dans cette série d'épisodes, c'est d'aborder la question un peu différemment. Et plutôt que de partir de l'hypnose et de l'inconscient, partir plutôt de notions de psychologie pour comprendre progressivement comment se construisent les mécanismes sur lesquels elles reposent, y compris ce fameux inconscient. C'est un peu comme si on abordait un puzzle en plaçant les pièces une à une et que leurs ajouts successifs dévoilaient de plus en plus l'image globale, en nous permettant de comprendre la raison d'être de chaque pièce, le rôle qu'elle joue dans cette image. Coup de bol pour nous, le puzzle il n'est pas bien grand, mais au final il permettra de raisonner un peu plus rationnellement sur ce qu'elle permet, quelles sont ses limites, comment elle marche, et surtout qu'est-ce qui provoque quoi et pourquoi. Alors, est-ce que ça marche vraiment? Avant d'attaquer les futurs épisodes, je vais me débarrasser de cette question. Est-ce que l'hypnose ça marche vraiment? Je pourrais balayer ça d'un simple « oui, faites-moi confiance » et passer à la suite. Mais comme on va passer pas mal de temps à parler de son fonctionnement, il vaut mieux que cette question elle soit derrière nous et qu'elle ne revienne pas sur la table tous les deux épisodes. Tout d'abord, il faut comprendre que derrière le terme hypnose, il y a deux concepts différents. L'état d'hypnose, qui est l'état dans lequel se trouve une personne hypnotisée, et la pratique de l'hypnose, qui est l'ensemble des outils utilisés pour placer une personne sous hypnose et se servir de cet état dans un but précis. Donc on a par exemple la pratique de l'hypnose de spectacle ou bien celle de l'hypnothérapie, avec des techniques, des protocoles et des objectifs différents. Ce qui déclenche la question de « est-ce que ça marche vraiment ?», c'est en général ce qu'on a pu voir, lire ou entendre au sujet d'une pratique et qui nous paraît surprenant. C'est machin qui m'a dit qu'il arrêtait de fumer en deux séances d'hypnothérapie, ou le spectacle où j'ai vu quelqu'un croquer avec plaisir un oignon en croyant que c'était une pomme. Personne ne met vraiment en doute qu'on puisse être dans un état apparent de détente. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Ça le devient lorsque de cet état, une personne se met à voir et entendre des choses qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas soi-même. Ou bien qu'elle entre dans cet état avec un comportement et elle en ressort sans. Et comme on considère l'hypnose comme un tout, on fait un gros paquet et on jette le doute sur l'ensemble, état et pratique. Je vais revenir sur les pratiques dans un instant, mais il faut bien intégrer que toutes présupposent et découlent de l'existence d'un état d'hypnose. Donc avant même de se demander si quelque chose marche vraiment dans une pratique, il faut déjà se convaincre que l'état d'hypnose existe tout court et que non, ça ne se résume pas à « il faut y croire pour que ça marche ». L'état d'hypnose, c'est un phénomène reconnu scientifiquement depuis longtemps et qui a fait l'objet de nombreuses recherches. Il fait encore l'objet de nombreuses recherches, non plus sur son existence, mais sur ce que ça peut apporter comme bénéfice dans un contexte donné, comme par exemple en complément ou non d'un traitement médical ou d'un suivi psychothérapeutique. Il suffit d'utiliser le moteur de recherche Google Scholar, qui est dédié à la recherche de publications, et on va trouver une quantité très très importante de publications dans plusieurs domaines scientifiques. Là, on ne parle pas d'articles de blog ou de journaux grand public, mais vraiment d'articles qui sont rédigés par des chercheurs, proposés à des journaux de publication spécialisés, qui sont soumis à des comités de relecture avec des experts, qui vont évaluer si ça apporte quelque chose de nouveau, et éventuellement, les articles seront acceptés et publiés pour que d'autres chercheurs puissent, de manière indépendante, vérifier et critiquer les conclusions. Rien que sur la première page de résultats, pour le terme hypnose, on va trouver aussi bien des liens vers des publications de 2022 que des liens vers des publications de presque 50 ans. Lorsqu'un sujet est considéré comme peu sérieux, il fait rarement l'objet d'autant de publications dans plusieurs disciplines, par autant d'auteurs différents et sur une aussi longue période. Il n'y a aucun chercheur qui a envie de perdre sa crédibilité en publiant sur tout et n'importe quoi. Ensuite, on peut aussi s'interroger sur la manière dont on peut détecter l'existence de cet état. Déjà, ça produit des modifications qui sont observables à l'œil nu. Et de la même manière qu'on peut distinguer qu'une personne elle est réveillée ou qu'elle dort en la regardant, on peut distinguer qu'elle est dans un état hypnotique, parce qu'il y en a plusieurs, en observant entre autres les pupilles, les paupières, la coloration des joues, des lèvres, ou encore l'absence de réaction face à des stimuli. Si on considère que l'observation à l'œil nu elle suffit pas, on va aussi pouvoir le détecter à l'aide d'outils de mesure, donc des appareils de mesure comme l'électrocardiogramme, ECG, ou l'électroencéphalogramme, EEG. Les états hypnotiques ils vont produire des variations du rythme cardiaque et de l'activité cérébrale qui sont caractéristiques. Ils vont provoquer des mesures qui sont différentes de celles d'un état normal, entre guillemets. En cherchant EEG hypnose sur Google Images ou sur YouTube, on va pouvoir trouver des tonnes de liens vers des sites qui partagent des graphes de mesure ou des vidéos de prise de mesure sur des personnes qui sont en train de passer d'un état normal à un état d'hypnose. Alors je vais passer en vitesse sur l'imagerie cérébrale qui permet elle aussi de visualiser les zones d'activité du cerveau et qui mettent en évidence les différences entre un sujet au repos et un sujet sous hypnose. Alors je vous laisse faire les recherches Google, image cérébrale, hypnose. Bref, tout ça pour dire, on peut voir l'état d'hypnose, mais on peut aussi le détecter en mesurant l'activité électrique du cœur et du cerveau, ou encore le détecter par l'imagerie cérébrale. Si on doute même de ça, et qu'on est vraiment très déterminé à se prouver les choses par soi-même, pas de panique. Le matériel médical, il n'est pas accessible au grand public, il coûte 3 bras parce qu'il est très précis, mais on peut aussi trouver des ECG grand public aux alentours de 100 € et un EEG grand public suffisamment précis aux alentours de 2000 à 3000 €. Alors ça reste assez cher, mais c'est pas complètement inabordable quand on considère que c'est le prix que certains mettent dans leur ordinateur. Donc c'est pas réservé à une poignée de chercheurs qu'il faut croire sur parole. On peut reproduire chez soi en acceptant que ça a un coût. Après, ça reste des appareils spécialisés dont il faut apprendre à se servir correctement, qui demandent pas mal de connaissances autant dans l'utilisation que dans l'exploitation des données. Et personnellement, pour avoir un peu joué avec et surtout beaucoup pleuré, il vaut mieux laisser ça aux gens, c'est le métier, leur faire confiance. Enfin, pour une approche beaucoup plus concrète, on peut apprendre. Apprendre à hypnotiser, c'est très simple. Il suffit de quelques minutes pour apprendre les techniques de base, hypnotiser un volontaire, provoquer un phénomène hypnotique crédible et constater que ça existe sans avoir à croire quelqu'un sur parole. Je vous recommande l'excellent livre La voix de l'inconscient de Jean-Emmanuel Combes, qui coûte pas très cher. C'est environ 30 € en version imprimée et puis 10 € en dématérialisé et qui est largement suffisant pour apprendre les bases. Il y a aussi des tonnes de vidéos et de bouquins qui expliquent les techniques. Il y a des groupes d'hypnotiseurs de rue dans de nombreuses villes qui organisent des sorties dans lesquelles on peut assister à des séances, se porter volontaire pour vivre une séance, ou bien, si on a appris quelques techniques, se lancer soi-même dans la pratique sur des patients volontaires. Pour ceux qui peuvent se le permettre, il y a aussi des stages de formation à l'hypnose de rue. Ça coûte entre 200 et 400 euros, c'est en général sur 2 jours, avec un temps dédié à apprendre les techniques et un temps dédié à proposer des séances à des volontaires dans la rue. Pour les gens qui sont les plus sceptiques, moi ce que je recommande, c'est vraiment de tenter l'expérience avec ou sans formation, parce qu'il n'y a rien qui dissipe autant le doute que de réussir à hypnotiser quelqu'un qui n'y croit pas trop, comme la plupart des gens, alors qu'on n'y croit pas trop soi-même. Donc voilà, en ce qui concerne l'état d'hypnose, moi je vais supposer que vous n'avez plus besoin d'être convaincu de son existence, soit parce que les arguments ils vous ont suffi, soit parce que vous avez fait un minimum de recherche de votre côté pour vous en convaincre, soit parce que vous avez pris le temps d'apprendre à faire de l'hypnose et pu constater par vous-même. En ce qui concerne les pratiques, est-ce qu'elles marchent? C'est un peu plus complexe. Elles partent toutes d'un même état d'hypnose qui existe, mais elles s'en servent toutes pour obtenir des effets différents. Donc on en déduit que c'est un état qui permet a priori pas mal de choses. Mais c'est pas pour autant qu'il permet tout. Et c'est pas parce qu'on arrive à hypnotiser facilement quelqu'un que toutes les promesses de toutes les pratiques sont automatiquement validées pour autant. Il y a des phénomènes qui sont tellement impressionnants qu'on en douterait qu'ils sont réels, alors que clairement, si. Et au contraire, on peut avoir une attente avec une apparence anodine qui est complètement hors de portée pour l'hypnose. Donc est-ce que l'hypnose, ça marche vraiment dans le cadre d'une pratique? La réponse, c'est que ça dépend de la promesse qui est faite et qu'il n'y a que la compréhension de comment fonctionne l'état d'hypnose qui permet de déterminer ce qui est crédible ou non de la part d'une pratique. Ce podcast, il va se découper en 8 épisodes autour de 8 grands thèmes, chacun reposant sur les thèmes des épisodes précédents. Dans le second épisode, on abordera toutes les notions psychologiques qui entrent en jeu dans l'hypnose. Alors ça sera un peu long, un peu touffu, mais l'idée c'est vraiment que cet épisode il donne le minimum théorique nécessaire pour que tout le monde puisse comprendre les épisodes suivants et garder ces épisodes concis en n'ayant pas à redéfinir des notions de base. Dans le troisième épisode, on parlera de perception de la réalité, un thème qui est particulièrement important dans la mesure où il va éclairer sur la façon dont on perçoit la réalité dans notre état normal, dans notre état d'hypnose, qu'est-ce qui crée le décalage entre les deux et fait qu'une personne puisse se comporter soudainement de manière un peu étrange pour un observateur externe. Dans le quatrième épisode, on causera de la construction de la personnalité, du fameux inconscient, notamment pour le démystifier un petit peu. Dans le cinquième épisode, on parlera de rêve et de rêve lucide, parce qu'il y a de grosses similarités entre le rêve et l'hypnose, et que la construction des rêves et leur mode de fonctionnement permettent de bien comprendre certains des mécanismes de l'hypnose. Dans le sixième épisode, on entrera enfin dans l'hypnose de manière générale, indépendamment de toute pratique, et on verra en fait comment toutes les notions précédentes elles s'agrègent en quelque chose de cohérent. Le septième épisode, lui, sera un peu plus spécialisé, il parlera de trauma, de symptômes, la manière dont les traumas se créent, par quels mécanismes ils se maintiennent et par quels mécanismes ils disparaissent. Enfin, le huitième épisode, huitième et dernier épisode, tournera autour de l'hypnothérapie, en présentant un peu différentes approches et en essayant de faire le lien avec tout ce qu'on a pu voir dans les épisodes précédents. En fonction des retours, j'intercalerai peut-être d'autres épisodes pour répondre aux questions, aborder un thème que je n'avais pas anticipé ou qui m'a été demandé, et pourquoi pas un live pour discuter de tout ça à la cool entre nous. Donc voilà, ça dépendra de vous. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura donné envie d'écouter la suite, même si c'est mon premier et que je ne suis pas forcément super à l'aise. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour être averti des futurs épisodes sur les plateformes où c'est possible. Vous pouvez me suivre sur le Twitter @thehypnocat en un seul mot. Et vous pouvez aussi m'envoyer toutes vos questions et commentaires et suggestions par mail à gilles@hypno.cat pour que je puisse en tenir compte dans les futurs épisodes. Portez-vous bien et à bientôt.